Je vous invite, chers amis, après cette lecture, de prier que le Seigneur nous aide à voir plus clair sur nous-mêmes, sur lui, sur la grâce en Jésus-Christ. Prions ensemble. Oui, Seigneur, quel privilège que nous avons d'avoir encore ta parole ouverte. Parfois, cette parole nous reproche. Nous voyons ici un texte qui nous fait trembler en tant qu'homme par rapport à notre propre faiblesse. Et donc, parle-nous, nous te prions, Seigneur, donne-nous de tirer de bonnes leçons pour que nous puissions te glorifier, toi le seul vrai Dieu. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Alors, quel est le point commun des films tels que, alors peut-être ce sont des vieux films pour certains, mais pour d'autres pas assez vieux, le Passion anglais, Pulp Fiction, vous vous souvenez de celui-là, Will Hunting, Le Discours du Roi, L'Artiste, Paddington, The Reader, si vous vous souvenez de celui-là, sont tous produits par la société de production de Harvey Weinstein. Cet homme qui, dès 2017, a été dévoilé comme étant un prédateur de jeunes femmes tout au long de sa carrière, qui se trouve actuellement, lui, emprisonné pour agression sexuelle aux États-Unis, y compris le viol. Savez-vous qu'une analyse, c'est pas moi qui ai fait cette analyse, des discours d'acceptation des Oscars de 1996 jusqu'à 2016 a révélé, non, 1966 à 2016, a révélé que Weinstein avait été remercié ou félicité dans 34 discours aux Oscars. Autant de fois que Dieu est juste derrière Steven Spielberg avec 43 mentions. Alors j'ai intitulé cette prédication, comme vous voyez sur la feuille, comment des héros ont-ils pu tomber? J'aurais pu commencer avec un autre exemple, bien entendu. Peut-être Bill Cosby, peut-être vous avez entendu parler de lui. Ou tristement pour l'Église chrétienne, l'évangéliste Ravi Zacharias. Ce n'est pas nouveau d'entendre parler des chutes de tels hommes. Mais c'est effrayant lorsque les délits, je pense, de nos héros sont dévoilés. Et ici, nous avons un héros biblique, lui-même, le roi David. David, c'est David qui a écrit cette phrase. Comment des héros ont-ils pu tomber? Il dit ça trois fois au chapitre 1 de 2 Samuel, lorsqu'il parle de la mort de Saül. Et le voici, lui, chapitre 11, en train, lui, de tout gâcher. Car rien ne restera le même en Israël suite à ces événements au chapitre 11. Oui, merci Seigneur, on arrivera à ça la semaine prochaine. David, lui, sera pardonné pour sa culpabilité dans cette affaire, mais son règne ne sera plus paisible. Son règne connaîtra une succession de compromis, de difficultés, de rébellions. Et si Dieu voulait que cette méchanceté de David soit dévoilée ici au chapitre 11 de 2 Samuel, que cet épisode donc se trouve dans la parole de Dieu encore aujourd'hui, soit lu dans l'assemblée chrétienne, c'est pour nous interpeller, chers amis, nous mettre en garde, nous faire apprendre que la justice du royaume de Dieu dont nous avons parlé la semaine dernière, rappelons-nous que chapitre 8, verset 15, on disait de David, il faisait droit et justice à tout son peuple. Alors ce droit et cette justice dont il nous faut ne viendra pas grâce à David. Non, il ne viendra que lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre en scène. Si nous sommes rassemblés en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous croyons cela. Nous nous fions à Jésus. Et donc, je vous invite maintenant donc, à rentrer dans cette histoire un tout petit peu de nouveau avec moi afin de pouvoir ensuite, lors de l'application que vous voyez sur la feuille, tirer quelques leçons pour nous à la fin. Donc, tout d'abord, le roi et le repos. Verset 1 de ce texte. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, sauf David. David, le roi guerrier, lui ne part pas ici avec son armée. Il reste à Jérusalem. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabba. Mais, dit le texte, mais David resta à Jérusalem. Et c'est un mais lourd en conséquence, n'est-ce pas? Car dès lors, l'action ralentit dans ce chapitre de façon dangereuse lorsque nous lisons ce qui a eu lieu. Au lieu de poursuivre donc des événements de la guerre à Rabba, nous nous trouvons, si vous voulez, à côté de la piscine, en vacances. La scène est donc détendue, calme, informelle. Et être en mode repos, nous le savons, j'imagine que vous le savez, peut être particulièrement dangereux pour l'homme. Car oui, parfois de bonnes habitudes et bonnes disciplines, quand on a un peu trop de temps, tombent à l'eau. On regarde peut-être trop la télé, ou trop de vidéos que Instagram ou TikTok me proposent. Au lieu d'être concerné par un ennemi et la discipline qu'il doit y avoir pour s'organiser contre un tel ennemi, ici, David a baissé sa garde, si vous voulez. Bah, hélas, le danger maintenant pour lui ne se trouve pas à l'extérieur, mais plutôt ici, à l'intérieur. Verset 2, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. Jusque-là, il n'y a pas de mal en tant que tel. Faire une promenade le soir sur le toit de son palais, c'était un toit bien entendu plein à l'époque, c'est permis. Il n'est pas responsable, David, non plus de ce fait que ses yeux tombent sur cette femme. Ça peut arriver. Mais le texte sous-entend que David, de manière peu sage, se trouve dans des circonstances où il se place en danger, le danger de la faiblesse de son propre cœur. Et donc cela nous mène au point 2 de notre récit, l'homme et l'immoralité. Car oui, David est un homme. Et par là, il faut être clair que ceci n'est pas pour excuser ce qu'il fait, comme si c'est compréhensible, car après tout, c'est un homme avec ses besoins, comme tout autre homme. Non, 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 ce n'est pas ça ce que je veux dire. C'est de constater que ce roi fait preuve d'une faille morale terrible en tant qu'homme. Et cet homme se sert de son pouvoir en tant que roi pour faciliter ce qu'il fait. Ici, ce n'est pas une scène, vous voyez, d'Hollywood où l'adultère est rendu attirant, même souhaitable, et de toute façon compréhensible. Non, le texte est écrit ici pour souligner cet acte abusif. Même s'il n'est pas forcément question d'un viol, ça on ne sait pas, mais le texte ne souligne aucun mot romantique, aucun discours entre les deux personnages. Le côté agréable de cette liaison, avant, pendant ou après, n'est pas du tout mis en avant. Dans une succession vite de verbes employés par l'auteur, l'accent tombe sur l'action de David, son initiative, le pouvoir qu'il exerçait pour avoir ce qu'il voulait. Verset 2, il aperçut. Verset 3, il envoya. Verset 4, pour la chercher ou la prendre, si vous lisez la Tobe. Verset 4 encore, il coucha avec elle. Et de qui s'agissait-il, cette elle? Verset 3, David est bien informé, avant qu'il passe à l'acte. Elle est Bathsheba, femme d'Uri, le Hittite. Une fois que l'adultère a lieu, elle est désignée simplement de nouveau la femme. même à la fin de ce récit, pour marteler le clou, si vous voulez. Lorsqu'elle apprenne elle-même la mort de son mari, elle est appelée simplement la femme d'Uri. Il se peut que notre société, à ce stade, ne voit pas le mal ici. Deux adultes qui donnent leur consentement, on le suppose, mais on ne le sait pas. Où est le mal de cela, on nous dit. Le Créateur voit le mal. Car dès que notre plaisir est placé au-dessus des buts pour lesquels Dieu a désigné notre sexualité, alors comme ce texte le souligne, l'autre devient un objet par lequel je me sers pour mon propre épanouissement. La femme, donc, ici, est objectivisée, si vous voulez. Elle est traitée comme un objet pour le plaisir d'un homme. Vous savez, l'immoralité sexuelle promet toujours de l'intimité pour celui qui le pratique. Mais l'ironie, c'est qu'elle donne suite à moins d'intimité relationnelle. Quand l'accent tombe sur le plaisir de l'acte même et pas sur le bien de l'autre, ce qui est le rôle que des relations conjugales ont au sein d'un couple pour renforcer l'engagement l'un envers l'autre au sein du couple et pour pouvoir un cadre pour que des enfants naissent. Alors David, il connaissait les consignes de son Créateur. Mais ici, le plaisir égoïste prend le devant de la scène. Il y a une ironie, n'est-ce pas? Car David a été attiré, lui, par la nudité de Bathsheba lorsqu'elle se baignait. Mais le verset 4 nous donne une explication pour sa nudité. Elle se purifiait justement de son impureté. Oui, selon la loi de l'Ancien Testament, en Lévitique, il y avait des rituels de pureté pour des femmes après leurs règles. Donc son bain était afin d'observer la loi, tandis que l'action de David constituait une infraction flagrante de cette même loi. Jusque-là, hein, dans le récit, David gère parfaitement son coup, n'est-ce pas? À la fin du verset 4, elle retourne chez elle, mais ensuite il y a ce verset 5. Elle devient enceinte et elle informe le roi. Et cela nous mène au point 3 de notre schéma, le mensonge et le meurtre. Car cela déclenche le plan A de David. Il va y avoir 3 plans qui s'enchaînent. Mais d'abord, le plan A, c'est d'envoyer un mot à Joab, son commandant sur le front, commandant d'Uri, pour que Joab l'envoie, Uri le Hittite, sous prétexte de vouloir des nouvelles de la progression de la guerre. Pendant son bref séjour à Jérusalem, il allait sûrement raisonner David, coucher avec sa femme. Et ainsi, l'enfant sera accepté par tous comme étant l'enfant de Uri. On voit donc là, dans un sens, la capacité de David de former un plan d'attaque qui, dans d'autres domaines, on considérait comme un don. Mais ce don, dans un domaine, devient une arme pour pratiquer l'injustice. Mais le plan A échoue, car David, le roi d'Israël, considéré juste au chapitre 8, est confondu par la justice de Uri, le Hittite, un non-israélite, lui loyal et fidèle à son commandant Joab, mais aussi au Dieu d'Israël, souligne le texte. Uri refuse de jouer le jeu. Il se couche verset 9. À la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur. Lorsque David demande pourquoi, il répond, verset 11, que James avait lu si bien pour nous. L'arche, ainsi qu'Israël et Juda, habitent sous des houttes. Mon seigneur Joab et les serviteurs campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. Et David s'est couché avec la femme de quelqu'un d'autre. Non, le vrai cœur de serviteur que David prétendait avoir au verset 7, lorsqu'il se renseigne sur l'état de Joab, ou littéralement le shalom, le bien-être de Joab, du peuple et de la guerre, se révèle ici le vrai cœur. David ne se soucie pas pour le bien-être, le shalom. Il cherche à détruire le shalom d'un autre foyer. Et cela déclenche le plan B. De nouveau, ça fait preuve, son plan B, d'une certaine présence d'esprit, de pouvoir réfléchir aussi vite lorsqu'il a été confondu après son plan A. Verset 12, David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain, David l'invita à manger, à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche. Avec sa femme? Non. Avec les serviteurs de son seigneur. Mais il ne descendit pas dans la maison. Aïe, aïe! Confondu une deuxième fois. Uri reste un serviteur loyal à son maître, même si en ce faisant, il confond la mauvaise volonté de ce même maître. Ivre, comme disait l'un des commentateurs, il est un homme meilleur que David sobre. Et cela nous mène au plan C. Maintenant, le plan C monte un cran. Le cynisme, un plan meurtrier. Car David maintenant renvoie Uri au front, apportant une lettre qui contenait son propre arrêt de mort. Vous rendez compte? Verset 14, au matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Mais quelle terrible audace de la part de David. Il fait confiance à la fidélité d'Uri pour qu'il n'ouvre pas une lettre scellée du roi, une lettre qui signe son propre arrêt de mort. Joab fait le nécessaire. Toujours cet homme pratique, ultimement. La volonté de David s'effectue. Le pauvre Uri meurt au verset 17. Mais ce que David n'avait pas forcément envisagé, c'est que d'autres devaient aussi être sacrifiés. Car laisser Uri seul là où il était n'était pas réalisable s'il fallait chercher le vrai motif d'une avance de l'armée à l'endroit où il allait avoir de la résistance. Joab, lui, qui a tout compris dans cette histoire, savait que David réagira avec agression par rapport à une manœuvre militaire aussi naïve que de mettre des hommes en danger comme il avait fait. Et dans verset 19, il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, « si la fureur du roi s'élève et qu'il te dise, pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on tire du haut de la muraille? C'est simple, c'est basique ça. Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » Le messager fait donc ce que Joab lui dit. Et encore une fois, il y a beaucoup d'ironie lorsqu'il dit au verset 24, et il en tomba parmi les serviteurs du roi, et ton serviteur Uri, le Hittite, est mort aussi. David dit au messager, tu parleras ainsi à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, fortifie-le. David et Joab, devenus complices dans un acte indigne, au lieu de se fâcher à la perte du sang versé de façon irresponsable comme il aurait réagi de par le passé, David ignore cette perte de sang avec un cynisme d'un homme qui a réussi son coup, peu importe la portée de ses actions sur les autres. Il a pu sauver sa peau à lui. C'est ça ce qui comptait pour lui, aux dépenses de la peau de ses hommes. On arrive donc à la fin du plan C. Et il faut dire que, après tout, David a réussi. La suite est plus ou moins normale, non? Verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort. Elle accomplit les rites funèbres sur son époux. Verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans la moisson, dans sa maison, pardon. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Voilà donc la fin de l'histoire. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, avec une couche magistrale, le narrateur donc lance sa dernière phrase tout à la fin. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. J'ai intitulé le quatrième point « L'aveuglement et la vue ». Car une autre façon de traduire cette phrase « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel » sera ceci. Ce que David avait fait était mauvais aux yeux de l'Éternel. Au verset 25, David avait dit à Joab, « Ne sois pas peiné de cette affaire. » Et là, de nouveau, on aurait pu plutôt traduire ainsi, « Que cette affaire ne soit pas mauvaise à tes yeux. » Et à la fin, donc, de nouveau, ce que David avait fait était mauvais aux yeux de l'Éternel. C'est quasi la même expression employée. Mais qu'est-ce qui compte? Les yeux de Joab, et donc David lui-même, ou les yeux de Dieu? Ce Dieu qui a appelé David, qui a installé David en tant que roi, qui a protégé David, qui a remporté la victoire de plusieurs batailles pour David, qui avait promis à David une dynastie de la lignée de David. Ce Dieu, tout au long de ce chapitre, vous l'avez remarqué, n'est pas mentionné qu'une seule fois, à part lors de cette dernière phrase. David l'a supprimé, si vous voulez, de sa pensée. Aveuglement, comme s'il ne voulait pas faire face à la réalité que Dieu était là. Il endurcit donc son cœur par rapport à Dieu. Lorsque nous péchons, chers frères et sœurs, c'est ça ce que nous faisons. Nous endurcissons notre cœur par rapport à Dieu. Au lieu de prier face à la tentation, comme Jésus nous enseignait de faire, au lieu de fuir à la tentation, comme Joseph devant la femme de Potiphar nous donne le modèle à faire, non, nous nous cédons plutôt à la tentation de penser que personne ne voit. Mais Dieu nous voit. Bien qu'il ait réussi selon ses critères à lui, donc David, bien sûr, le texte souligne jusqu'à quel point il a perdu. Car il ne se rendait pas compte que tout au long de cette histoire, Dieu voyait le mal qu'il faisait. Et donc, nous passons donc à l'application. Déjà, dans un sens, nous avons évoqué quelques pistes d'application pour nous lors de ce résumé de l'ensemble de ce texte. Mais je vais essayer de concrétiser cela un petit peu avec ces trois remarques A, B et C. D'abord, donc, David, le roi et le royaume. Souvent, en fait, la première application que nous donnons avec ce récit, c'est le deuxième. C'est de nous exhorter, nous, à éviter l'immoralité sexuelle, le mensonge et le meurtre. Ben, c'est juste, bien entendu, que nous avertissons les uns les autres dans ces domaines. Nous allons faire cela lorsqu'on arrive au point B. Mais d'abord, nous devons peser la portée de l'identité de cet homme qui agit de la sorte dans 2 Samuel 11. Car lui, il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un méchant qui joue pour l'équipe opposante du monde, si vous voulez, comme un criminel que nous lisons dans un journal qui a tué quelqu'un et on se réconforte en disant à notre épouse, si on est homme et on est marié, bon, merci Seigneur que je ne suis pas comme ce criminel. Terrible, n'est-ce pas, ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est pas un méchant, là, loin de nous. C'est David, le roi David, choisi par Dieu, désigné par Dieu pour être celui par qui le Messie viendra. Son règne, nous l'avons vu tout au long de cette série de prédications, à beaucoup d'égards, est un modèle pour le royaume de Dieu d'aujourd'hui. Alors que dirions-nous à ce sujet que nous avons affaire à ce David-là? N'aurais-tu pas alors choisi quelqu'un de meilleur, Seigneur, pour finir? Non. David a choisi... Non, Dieu, dans sa souveraineté, a choisi David. Pas pour approuver l'action de David, mais pour mettre en relief le besoin d'un roi qui, d'un côté, est comme David, de la lignée de David, mais d'un autre côté, qui n'est pas du tout comme David. Le Seigneur Jésus-Christ, descendant de David, a établi son règne par la droiture et la justice. Le Nouveau Testament nous dit qu'il n'a pas connu le péché. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Vous savez qu'à la croix, lorsque Jésus est mort, ceux qui se trouvaient autour de lui se moquaient de lui en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas sauver lui-même ». Mais c'était le contraire à la croix, chers amis. Parce que Jésus voulait sauver d'autres, il a choisi de ne pas se sauver lui-même. Ça, c'est le contraste que nous avons entre David et Jésus. Et donc, voici le descendant de David. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, nous dit le premier verset du Nouveau Testament. Cela signifie-t-il, encore une fois, que David et son comportement donc est blanchi? Non, non. C'est super intéressant de remarquer que dans cette généalogie, au début du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, je pense que c'est le verset 6, là où apparaît donc le nom de David dans la lignée de Jésus-Christ, il y a également, vous avez vu, le nom d'Uri. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David, le roi David eut Salomon, de la femme d'Uri. C'est souligné, c'est pas un hasard que c'est là. Uri a aussi son nom dans la généalogie de Jésus. Ça nous rappelle la faille de David, la faiblesse de David, le péché de David. Et ça met en avant la gloire de ce que nous recevons en Jésus-Christ. Donc même si ce portrait du roi David est salutaire pour nous, chers amis, il y a de l'espoir dans son descendant, né de la lignée de David, le Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est notre première application. On en parlera plus sur le pardon la semaine prochaine. Mais déjà, sachant qu'auprès de Jésus-Christ, nous trouvons cette justice que nous n'avons pas en nous-mêmes. Mais oui, deuxième application alors, l'homme, le péché et le salut. Car à ce moment tournant pour David et pour son royaume, ça ressemble, peut-être vous l'avez remarqué, à un autre moment tournant, encore plus fondamental pour toute humanité. Genèse chapitre 3, la chute de l'homme. Car là aussi, il était question de quelqu'un qui a vu ce qui est bon à ses yeux, qu'elle voulait manger, qu'elle avait pris. De même, David a vu que Bathsheba était belle, il a désiré, il avait pris. Et donc, il fait comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dicté par ses désirs au lieu d'être dicté par la parole de Dieu. Le désir déchirait le cadre que Dieu donne, détourne l'homme de ce que Dieu dit, comme le serpent dans le jardin d'Éden, qui disait agir ainsi, c'est la bonne façon de procéder. Mais en faisant cela, nous mettons en doute la bonté de Dieu et la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit le serpent, dans le jardin, comme si Dieu était un rabat-joie? Il ne l'est pas, chers amis. Nous devons le répéter. Mais tel est l'aveuglement du cœur de l'homme que nous sommes tous capables de bloquer pendant un moment la parole de Dieu pour donner suite aux désirs de nos cœurs. Triste à dire, mais les exemples d'aujourd'hui n'en manquent pas dans tout domaine de l'obéissance, mais bien sûr aussi dans le domaine sexuel. La parole de Dieu dit que les relations sexuelles sont à garder uniquement pour le cadre d'un engagement reconnu, public, devant Dieu, devant les hommes, entre un homme et une femme. Et c'est difficile à dire, mais nombreux sont les couples chrétiens, qui ne soient pas encore mariés, soient fiancés, soient qui se fréquentent, qui n'ont pas pu se tenir pour le lit conjugal. Non, suite à des décisions peu sages, qui se retrouvent rien qu'à deux dans la chambre de l'une ou l'autre, ou par manque de sagesse d'une manière ou d'une autre, ils ont ensuite laissé libre cours à leurs désirs. Joseph s'est trouvé seul avec la femme de Potiphar, vous vous souvenez? Il devait fuir. Il savait le danger qu'il y avait. Et parfois, naïvement, des chrétiens, encore dans ce domaine, peut-être nous avons trop de temps libre ou trop de propos comme « Ah, ben vous savez, nous savons nos limites, il n'y a pas de souci » ou trop de « Je peux lui dire non, vous savez ». Mais une chose mène à une autre et nous ne devons pas être naïfs. Que dit l'apôtre Paul? Ainsi donc, celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Que cela soit dans le domaine sexuel, que cela soit dans n'importe quel domaine, nous ne sommes pas, en tant que peuple de Dieu, aussi forts que nous le croyons. Mettre quasi n'importe quel homme, comme David, devant une femme toute nue, et s'y donnera feu vert pour confirmer la vérité de Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux plus que tu, et il est incurable. Qui peut le connaître? Ça, c'est une description réaliste de notre cœur humain. Et si cet épisode donc nous rappelle la chute, elle nous rappelle qu'en Adam, nous sommes tous faits de la même sauce qu'Adam. Le salut en Jésus-Christ ne vient que lorsque nous confessons devant Dieu notre besoin d'un sauveur. Alors arrêtons de se croire supérieur à ce monde qui est autour de nous. Oui, David, le même David qui a écrit des magnifiques psaumes, nous utilisons toujours dans l'Église, il a échoué. Nous avons échoué. De par nos pensées, de par nos paroles, de par nos actes. Nous sommes terriblement pécheurs, laissés à nous-mêmes. Ne faisons donc pas des hommes nos héros. Magnifions Jésus-Christ, l'homme parfait qui vient de Dieu. Celui qui, selon Hébreux chapitre 4, a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre le péché. Aucun autre homme a pu faire cela. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun, nous dit cet auteur. L'homme, le péché et le salut. Mais donc un dernier mot, si vous voulez, sur le pouvoir, la tentation et la transparence. Car ici, nous avons observé que David profitait du pouvoir que lui conférait sa fonction pour servir ses propres objectifs malveillants. S'agissait-il donc d'un viol? Il y a eu un débat, même cette semaine sur Twitter, rien que sur cette question-là. Nous ne savons pas pour être sûrs à 100%. Mais il y a peut-être des raisons pour y croire. Vous pouvez m'en parler plus tard si vous le souhaitez. Cet abus de pouvoir est l'aspect inconnu à notre époque. On pense, oui, à ce que l'évangéliste Ravi Zacharias, un évangélique, a pu faire pendant de longues années en se servant de sa réputation pour établir une confiance avec des femmes vulnérables. Et à son pouvoir pour ridiculiser la première victime qui cherchait à faire connaître la vérité. Toute son organisation l'ont suivi pendant un long moment. C'est possible, au nom de Dieu, pour une église même, de conseiller quelqu'un qui est victime d'un abus et de se servir de l'autorité de l'église pour exhorter une femme à encore se soumettre à son mari à ce moment-là. J'ai entendu parler cette semaine d'une église qui apparemment avait fait ça dans le passé en contribuant à ce que cet même homme ne soit pas agressif seulement envers sa femme, mais continue à abuser leur enfant. Quelle terrible situation pour la femme de devoir vivre non seulement l'immoralité, la méchanceté, mais aussi qu'au nom de Dieu, nous encourageons une femme de continuer à laisser un pédophile et un agresseur sexuel donner libre cours à son péché. Vous imaginez cela? Le mensonge, par contre, chers amis, ce n'est pas réservé uniquement aux puissants. Quand un ami, un colocataire, un époux, un parent vous demande ceci, que regardais-tu, chérie? Oh, rien, tu sais. Et qu'est-ce que tu faisais hier pour finir? Il y avait quelques heures où tu n'étais plus au travail, j'avais cru, mais on ne t'a pas encore vu. Oh non, rien, tu sais, j'avais juste 2-3 trucs à faire. La tentation peut accrocher au pouvoir plus facilement, d'ailleurs, à notre époque, chers amis. Car seuls devant un écran, nous pouvons croire que nous restons, comme David, en contrôle. Nous avons le pouvoir de cacher notre activité. Devant nos écrans, par inadvertance ou simple manque de contrôle de soi, il est possible de cliquer sur des images ou des vidéos illicites. Vous savez cela. Moi, je sais cela. Ces images promettent de l'intimité, mais ça délivre de l'objectivation. La sexualité ainsi dépourvue de son cadre de renforcer des liens conjugaux, c'est exploité pour des plaisirs égoïstes. On ne peut pas, chers amis, effacer la tentation. L'homme est toujours capable de trouver des moyens de faire le mal, peu importe les stratégies que nous essayons de mettre en place. Nous devons en être conscients. Mais la motivation pour notre obéissance ne doit pas donc être simplement négative. Ne fais pas surtout cela. Non, cela doit être aussi positif. Obéir à Dieu est une bonne chose à faire. Ça donne suite à un meilleur épanouissement à long terme, peu importe les tentations du moment. Mais il faut aussi dire que, étant donné le péché de l'homme, c'est important lorsqu'il s'agit de ceux et celles qui exercent une influence sur les autres, de procéder avec transparence par rapport à nos actions. De ne pas, si possible, opérer dans le secret. Dans mon cas, dans des rencontres pastorales que je peux avoir avec l'une ou l'autre personne, ce serait donc d'éviter des situations compromettantes. De ne pas, par naïveté, dire « oui, mais bien sûr, nous pouvons se donner rendez-vous dans tel ou tel endroit, moi seul avec quelqu'un d'autre. » De mettre en place une structure dans nos vies personnelles, dans notre vie d'église, où il y a la plus grande transparence possible. Dans une église, première chose à faire, c'est d'avoir une pluralité de responsables, d'anciens, redevables, ces anciens, envers des membres d'une église, qui agissent donc avec transparence auprès de leurs membres. Que ce soit dans le domaine financier, mais que cela dans tout autre domaine. Parce que nous voulons, par la transparence, maintenir la confiance. Maintenir la confiance au sein de votre couple demande donc la transparence dans ce que vous faites. Il n'y a pas de domaine où tu dis « Ah, ça ne te touche pas, ça c'est pour moi, ça c'est mon domaine secret. » Non. Nous cherchons à reconnaître que nous sommes faibles. Et donc à progresser avec sagesse par rapport à notre faiblesse. Voilà donc, chers amis, quelques réflexions sur 2 Samuel chapitre 11. Merci pour votre écoute. Peut-être vous vous dites, mais qu'en est-il du pardon quand même? Qu'en est-il de la culpabilité? Qu'en est-il des conséquences du péché aujourd'hui? Alors je vous demande patience, parce que Jonathan, qui prêche pour nous la semaine prochaine, va nous aider à mieux comprendre ces thèmes. Lorsqu'on aborde 2 Samuel chapitre 12. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on termine avec ce chant. Je ne sais pas si notre cher Paulin il va introduire ce chant dans un instant, mais je vais terminer par la prière, puis nous allons enchaîner dans un instant. Je te donne la parole tout de suite. Super. Prions ensemble, si vous voulez bien. Ô Seigneur, nous avons vu que nous avons besoin de Jésus-Christ. Te louons que Jésus est venu, le roi obéissant, le roi parfait, le roi droit et juste, qui s'est donné pour les autres, qui ne s'est pas servi de son propre pouvoir pour ses propres fins. Quelle joie nous avons, Seigneur, de connaître ce descendant de David et de vivre à la lumière de ce qu'il a pu faire pour nous. Et nous t'implorons, Seigneur, que nous ne soyons pas naïfs donc, par rapport à nous-mêmes, que par l'Esprit de Christ qui demeure en nous, que nous soyons un peuple, de façon individuelle, mais aussi de façon collective, qui soit transparent par rapport à ce que nous faisons, qui soit à genoux en ce qui concerne nos propres faiblesses, qui soit sage par rapport à la tentation. Donc glorifie ton nom, Seigneur, et donne-nous, oui, de connaître qu'en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, en Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Et donc, donne-nous de vivre pour lui, encore pour cette semaine-ci. Au nom précieux de Jésus, Seigneur, nous te prions. Amen.